Le journal, Hélène Philly.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, le profil du tireur de la mosquée de Bayonne se précise. Les deux victimes vont un peu mieux, toujours hospitalisées. Leur état semble s'être stabilisé. Nous irons sur place. La communauté musulmane s'inquiète. Le recteur de la mosquée de Lyon réclame la protection du président de la République.
Moi, je demande au président de la République de nous prendre sous sa protection, de prendre la communauté musulmane sous sa protection, parce que nous sommes en train de vivre des moments qui rappellent des moments sombres de l'histoire de France.
Kamel Kabdan, le recteur de la mosquée de Lyon, dans ce journal. Des propositions pour favoriser les vocations d'aide-soignants, d'intervenants à d'aide à domicile. C'est le rapport El Khomri pour faire face au mur démographique de 2030. Peut mieux faire, disent les professionnels. Dans ce journal aussi, violence conjugale, des propositions sur le bureau de la ministre Marlène Schiappa, et notamment celle-ci, punir par la loi, le suicide forcé. Ariane Grissel, est-ce que c'est possible, ça ?
C'est possible. Aujourd'hui, il y a un vide juridique. La notion de harcèlement par conjoint est punie par la loi, mais sans pour l'instant que soit envisagée celle de suicide.
Vous nous expliquerez tout à l'heure. Filtrage politique, censure. À Hong Kong, les autorités refusent à l'une des figures de la contestation de se présenter aux élections locales. L'étranger, c'est aussi le Brexit. Boris Johnson arrache des élections anticipées. Un Népalais sur le toit du monde, exploit d'alpinisme, les 14 plus hautes montagnes du monde gravies en seulement 7 mois. On va en parler avec notre invité Jean-Michel Asselin, amoureux des montagnes. Et puis on se met au vert à 13h30 avec vous, Camille Crenier, bonjour.
Bonjour.
Au menu de la Terre au carré aujourd'hui.
Ce que Greenpeace appelle les chars d'assaut urbains, les SUV, ces chouchous de l'automobile accusés par l'Agence internationale de l'énergie d'émettre trop de CO2. On attend vos questions et vos remarques dès maintenant au 01 45 24 7000.
A tout à l'heure, 13h30, juste après la météo complète de votre mardi.
France Inter.
Les deux fidèles blessés hier à la mosquée de Bayonne se remettent donc doucement ce midi, toujours hospitalisés, leur état s'est stabilisé. La mosquée de Bayonne, elle, est restée fermée, tandis que le profil de l'homme se précise, celui d'un homme particulièrement virulent, Paul Ferrier, France Bleu Gascogne.
L'ancien candidat frontiste habite une villa dans un quartier résidentiel. Devant, une boîte aux lettres précise, Claude Cinquier, sculpteur et écrivain. Une maison dont la porte au carreau brisé rappelle l'intervention des forces de l'ordre. Juste à côté de la maison de Claude Cinquier vit son propriétaire.
Bonjour, je travaille à la radio à France Bleu Gascogne.
Encore étonné d'avoir appris que son locataire est le tireur présumé. Il nous décrit Claude Cinquier comme un vieux monsieur, très malade, un original qui tenait des propos racistes. Une autre voisine confirme.
Vous avez déjà parlé avec lui ?
Oui. Il avait des propos violents, c'était un extrémiste de droite, dit-elle. De l'autre côté, son voisin se rappelle lui d'un épisode en 2015, une cérémonie d'hommage après l'attentat de Charlie Hebdo. Claude Cinquier avait perturbé la cérémonie. C'est aussi de cet épisode dont on parlait ce matin chez le marchand de journaux du village.
Il en voulait la terre entière.
Le buraliste raconte que le tireur présumé s'est pris la tête avec tout le monde ici. Et ça, à la mairie du village, les agents le savent bien. La maire, Isabelle Aspeitia, a souvent eu affaire à Claude Cinquier, un homme en colère. Elle aussi se souvient de cette cérémonie pour Charlie Hebdo en 2015.
J'y étais, nous avons fait devant la mairie une cérémonie. Effectivement, ce monsieur a semé le trouble et a été sorti de la foule.
Un autre élu du village évoque un homme instable psychologiquement, un homme avec des obsessions, mais de là à passer à l'acte, on ne pensait pas, conclut l'adjoint.
Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi à ce stade, mais reste en lien avec le parquet de Bayonne qui a prévu une conférence de presse tout à l'heure à 17h. L'émotion est vive, évidemment, dans la communauté musulmane, et c'est aussi de la colère exprimée par le recteur de la mosquée de Lyon, Kamel Kabdan, à l'encontre de tous ceux qui ont, dit-il, jeté de l'huile sur le feu ces dernières semaines.
Il faut peut-être aujourd'hui que les Français comprennent que ce qui se passe dans notre pays est grave. Et cette gravité, aujourd'hui, elle se manifeste par des faits, par des actes tels que l'on les a vécus hier. Et les musulmans, aujourd'hui, ont peur. Et nous avons peur de cette situation qui commence à prendre difficulté. C'est pour ça que, moi, je demande au président de la République de nous prendre sous sa protection, de prendre la communauté musulmane sous sa protection, parce que nous sommes en train de vivre des moments qui rappellent des moments sombres de l'histoire de France.
Kamel Kabdan au micro de nos confrères de France Info. Est-il vraiment opportun, dans ces conditions, d'examiner une proposition de loi comme celle des sénateurs républicains pour interdire le voile aux accompagnatrices scolaires? Le texte est discuté cet après-midi, mais dans les couloirs du Sénat où vous vous trouvez, Laurence Perron, est-ce que c'est un sujet de discussion? Est-ce que c'est un sujet qui divise?
C'est un sujet qui divise, mais les sénateurs de la droite LR sont inflexibles. Ils viennent de sortir de leur réunion de groupe. L'attentat de Bayonne y a été évoqué. Mais pour la rédactrice du texte, la sénatrice Jacqueline Eustache-Brignaud, il ne faut pas tout mélanger.
Ça n'a rien à voir avec le texte de loi qui a été déposé en juillet. C'est évident que aujourd'hui Bayonne, c'est un drame. Hein. Tout le monde évidemment condamne ce qui s'est passé, mais il faut pas tout mélanger. Quoi, je veux dire, on peut pas mélanger ce texte qui est un texte de bon sens pour l'école avec des événements qui se sont juxtaposés par rapport à ce contexte de loi. Donc, les événements de Bayonne n'ont absolument rien changé, rien.
La proposition de loi a effectivement été déposée cet été, avant l'affaire aussi du Conseil régional de Franche-Comté. Elle vise à renforcer la loi de 2004 en interdisant les signes religieux ostentatoires aux accompagnants de sorties scolaires. Une question de bon sens, estime le sénateur Roger Carucci.
Écoutez, moi quand j'étais enseignant, aucune mère ne refusait. D'ailleurs, elle ne les mettait pas, pour être très franc, le voile à l'époque. Mais
c'était à l'époque.
Oui, mais la République n'a pas à faire de concessions inutiles. Si des gens considèrent qu'ils ne peuvent pas enlever leur kippa, qu'ils ne peuvent pas enlever leur voile pour participer à des sorties scolaires, ben ils n'y participent pas.
Alors comme en 2004, les politiques sont très divisées sur la question, la gauche essaie toutefois d'organiser un front commun sur la question. Il y aura sans doute là aussi des défections.
Laurence Perron, direct du Sénat, avec l'aide technique de Nicolas Mathias. Un contexte politique lourd. Emmanuel Macron en dira-t-il un mot ce soir? Il inaugure le nouveau centre européen du judaïsme à deux pas du périphérique dans le 17e arrondissement de Paris. Faustine Calmel s'y est rendue.
L'ensemble est clair, grand bâtiment gris à l'angle de deux rues passantes et ses mots en façade en lettres d'or. Centre européen du judaïsme, Stéphane Maupin est l'architecte des lieux.
Alors dans ce centre, il y a une synagogue, il y a une école, des bureaux, une salle polyvalente et on est en train de terminer le très joli jardin qui va faire le trait d'union entre tous les éléments du programme.
Dernier coup de perceuse avant l'arrivée du chef de l'État pour un centre ouvert sur la ville et non plus dissimulé, Joël Mergui, président du consistoire de Paris.
Il fut une époque où on était obligé d'être dans des petites rues cachées comme la plupart de nos grandes synagogues en France. Donc je crois que c'est aussi une traduction d'ouverture réciproque, comme vous l'avez vu dans le bâtiment avec les grandes baies vitrées. C'est une ouverture du judaïsme vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur de la communauté juive et du judaïsme. Je pense que c'est une connaissance réciproque qui est importante dans un moment où ne pas connaître, c'est entraîner malheureusement parfois des drames.
Joël Mergui souligne le chemin parcouru depuis 2012, tuerie de Mohamed Merah à Toulouse, et 2015, prise d'otage à l'hyper-cacher, porte de Vincennes, et se félicite d'accueillir ce soir un président, non pas dans un moment de drame, dit-il, mais pour construire l'avenir.
Reportage signé Faustine Calmel. Ça ne s'arrange pas à la SNCF, 3 TGV sur 10 seulement sur les rails de l'axe Atlantique. Il n'y aura que 4 trains pour Rennes depuis Paris, un seul pour Quimper, un seul pour Brest aujourd'hui et on se demande à présent si le mouvement ne va pas s'étendre. Fabien Cazot.
Bien que la situation sociale du technicentre de Châtillon reste très particulière, avec notamment ses 12 jours de congés supplémentaires sur lesquels la direction voulait revenir dans son projet initial, la radicalité qui s'exprime sur place est symptomatique d'un état d'esprit plus général qui règne dans d'autres sites de la SNCF. Les principaux syndicats de l'entreprise, à qui le mouvement échappe en partie, confient qu'ils ne seraient pas étonnés que le mouvement de Châtillon donne des idées à d'autres cheminots dans d'autres régions, parmi les agents de maintenance ou ceux de conduite, dans le sud-est notamment. Certains d'entre eux avaient déjà cessé le travail en dehors de tout cadre légal à la suite de l'accident de train survenu dans les Ardennes il y a 10 jours, notamment, estiment les syndicats, parce que les longues grèves de l'année dernière menées en respectant les formes n'ont selon eux servi à rien. Selon Sudrail, plusieurs demandes de concertation immédiate ont été déposées ces derniers jours auprès des différentes directions de la SNCF, demandes restées sans réponse jusqu'à présent.
La pression monte, d'autant que la réforme des retraites arrive. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, rencontre justement le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, aujourd'hui. Comment financer ces retraites? Comment faire face aux défis démographiques qui s'annoncent d'ici à 2030? Nous ne sommes pas prêts, avoue la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Et ça vaut aussi, surtout, pour tous ceux qui accompagnent nos aînés, aides-soignants, intervenants à domicile. L'ancienne ministre Myriam El Khomri suggère plus de 18 000 créations de postes par an pendant 5 ans dans un rapport remis aujourd'hui. Elle suggère aussi la suppression du concours d'aide-soignants pour inciter les vocations. Des premiers pas, mais loin d'être suffisants pour le directeur adjoint de l'association des directeurs au service des personnes âgées, Éric Frégona.
Les premiers pas, c'est que chaque établissement et chaque service à domicile se verrait chaque année augmenter d'un poste. Je rappellerai que l'intersyndicale et l'ADEPA demandent depuis 8 mois qu'il soit créé 2 postes dans l'immédiat dans chaque établissement et dans chaque structure, donc c'est pas le haut niveau attendu. Pour autant, ça représente un premier pas et un premier changement de cap. Il y a également dans ce rapport la facilitation de l'entrée dans l'emploi du grand âge et la gratuité des formations. Donc ça, c'est des choses positives. Pour autant, il faudra plus de temps pour accompagner toutes les personnes qui sont en alternance. Et donc, ça reste la problématique du temps passé et de la création de postes qui, à notre sens, est encore insuffisant. Pour autant, là, c'est vraiment le manque criant des annonces qui ont été faites. Il n'y a rien sur les salaires. À ce stade, il n'est pas prévu de revalorisation salariale dans un secteur qui pourtant est très, très mal payé.
Évric Frégonat au téléphone de Sonia Princey. Les premières propositions du Grenelle contre les violences conjugales sont donc arrivées sur le bureau de la ministre Marlène Schiappa aujourd'hui. Ne laisser aucune victime sur le bord de la route. C'est la promesse de la ministre qui a donné tout à l'heure ses priorités au micro de Sandrine Etoa-Holdeg.
La réquisition des armes à feu dès la plainte, la création d'un protocole clair d'accueil en gendarmerie et en commissariat, l'implication et la mobilisation des partenaires sociaux avec lesquels nous travaillons avec la ministre du Travail, la nécessaire prise en compte des violences autres que violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques, avec notamment la mise en place d'un groupe de travail interministériel et participatif pour arriver à mieux qualifier les violences psychologiques. Et ça veut dire que la loi doit évoluer dans ce sens. Et je crois qu'on a là typiquement un objet très précis sur lequel nous devons travailler en collectif.
Une autre mesure suggérée par les groupes de travail, que la loi punisse le suicide forcé. L'année dernière, 217 femmes se seraient donné la mort à cause des violences conjugales subies. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Vous nous donnez les clés pour comprendre. Est-ce que ce serait possible ou pas?
Alors, ce serait possible et ce serait une première en Europe, en croit Yael Mellul. L'ancienne avocate a présenté cette proposition tout à l'heure dans le cadre du Grenelle.
Notre proposition d'incriminer le suicide forcé en circonstances aggravantes du harcèlement moral est une proposition qui est fondamentale parce qu'elle montre à quel point le harcèlement moral a des conséquences traumatiques aussi graves que les violences physiques puisqu'elles conduisent à la mort.
Aujourd'hui, la loi punit déjà le harcèlement moral dans le couple, mais sans envisager le suicide. Florent Boitard est secrétaire général adjoint de l'USM, l'Union syndicale des magistrats.
En fait, la loi fait une distinction. Pour le cas d'un harcèlement entre conjoints, il faut regarder quelle est la durée de l'arrêt de travail provoqué. Moins de 8 jours, on a une peine de 3 ans d'emprisonnement encourue. Plus de 8 jours, la peine d'emprisonnement encourue est de 5 ans. Visiblement, le code pénal ne prévoit rien pour les cas les plus graves, qui sont la mort de la personne à travers un suicide.
Florent Boitard met tout de même en garde sur cette notion de suicide forcé.
Si je vous dis suicide forcé, vous allez penser à une personne qui braque un pistolet sur la tempe de l'autre, ou vous allez penser à Socrate qui avait été contraint de boire le poison. S'il ne le buvait pas, on le tuait d'une autre manière.
Donc vous l'aurez compris, prudence sur le terme, mais dans les textes, il y a effectivement un vide juridique. Si cette proposition est retenue, le harceleur sera jugé aux assises et risque la même peine qu'en cas de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Autrement dit, jusqu'à 20 ans de réclusion.
Merci beaucoup Ariane Grissel pour ces explications. Et comme chaque mardi à cette heure-ci, la chronique santé à présent de Daniel Messager. Aujourd'hui, on parle audition. L'Institut de l'audition vient d'être inauguré à Paris et c'est une chercheuse de renommée mondiale qui est à sa tête, le professeur Christine Petit, que vous avez rencontré, Daniel.
500 millions de personnes dans le monde sont malentendantes et pourtant de grandes avancées se profilent que va porter ce tout nouvel Institut de l'audition. C'est une recherche intense sur les différents modes de surdité congénitale ou liée à l'âge qui est aujourd'hui sur le point de porter ses fruits.
C'est quand même une petite révolution qui se prépare. Les traitements que l'on cherche à développer, c'est d'une part la thérapie génique, donc on va corriger ce défaut génétique, et l'idée c'est que, à partir de là, la cellule va redevenir fonctionnelle. Pour les formes de surdité qui correspondent à l'atteinte d'un seul gène, on cherche à améliorer les essais thérapeutiques pour des agents pharmacologiques.
Agents pharmacologiques, un médicament ?
Un médicament, voilà, ouais. Voilà, ce sont des médicaments.
Un médicament qui fonctionnerait comment ?
Qu'on donnerait éventuellement par voie orale, qui peut soit lutter contre des processus dans lesquels les cellules s'engagent dans la mort cellulaire, ou alors il y a des indications que les processus inflammatoires jouent un rôle en particulier dans tout ce qui est atteinte auditive liée à l'âge. Et troisième volet sur lequel on veut agir, c'est la thérapie cellulaire. Ça devrait être une véritable révolution.
La thérapie cellulaire, c'est le transfert de cellules souches que l'on va différencier dans l'oreille interne. Alors thérapie génique, cellulaire ou médicaments, ces nouveaux modes d'action sont très attendus car aujourd'hui on ne guérit pas, on n'apporte que des aides pas totalement efficaces.
Les prothèses auditives rendent des services tout à fait considérables. Pour autant, la décomposition fréquentielle des messages sonores, elle n'est pas du tout aussi fine, et donc en particulier, de ce fait, l'écoute musicale n'est pas restaurée de façon satisfaisante, ni par l'implant cochléaire, ni par les prothèses conventionnelles. Par ailleurs, l'écoute dans le bruit reste très mauvaise. Un enfant qui a un implant cochléaire va être capable d'entendre dans le silence, mais vous le mettez dans un environnement bruyant, il redevient un enfant malentendant.
Pour tous ces malentendants, des essais, dans un premier temps de thérapie génique, vont démarrer dans 1 à 2 ans. Des essais qui ne seront rendus possibles que grâce à des aides de l'industrie privée, car sans elle aujourd'hui, aucune recherche d'une telle ampleur ne serait réalisable.
La chronique Santé chaque mardi, signée Daniel Messager.
France Inter, le journal de 13h, Hélène Philly.
Et ça continue encore et toujours. Le Brexit, Boris Johnson vient d'arracher l'accord des travaillistes pour la tenue d'élections anticipées. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Finalement, Jeremy Corbyn, le leader du Labour, n'avait pas vraiment le choix.
Non, à 3 reprises, Jeremy Corbyn s'est déjà opposé aux élections. Trop tôt, trop risqué, disait le chef de file des travaillistes, parce que pour lancer le scrutin, il faut dissoudre le Parlement. Il avait peur que le gouvernement profite de l'occasion pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre sans aucun accord. Mais la menace est écartée, explique Jeremy Corbyn. Le report du Brexit au 31 janvier va nous permettre, dit-il, de lancer une campagne électorale ambitieuse et radicale. Dans les sondages, pourtant, les travaillistes restent à la traîne avec une 10 points de retard sur les conservateurs. Ce n'est pas forcément le moment idéal pour se lancer dans une bataille électorale, mais ils n'ont effectivement pas le choix. Les conservateurs, les indépendantistes écossais, les libéraux démocrates, tous sont d'accord pour organiser le scrutin. Un refus de la gauche serait catastrophique pour l'image de Jeremy Corbyn, déjà traité plusieurs fois à l'Assemblée de poule mouillée, accusé par ses adversaires de freiner le processus démocratique et de bloquer le Brexit.
Antoine Gignot en direct de Londres. Il avait été l'un des visages du mouvement des parapluies il y a 5 ans. Il est l'une des figures de la contestation des derniers mois à Hong Kong. Joshua Wong, étudiant en sciences politiques, 22 ans, voulait se présenter aux élections locales. Sa candidature vient d'être invalidée. Les précisions de notre correspondante dans la région, Florence de Changy.
Bien qu'il ne s'agisse que d'élections locales, les élections de district, qui doivent avoir lieu le 24 novembre, sont le seul scrutin véritablement démocratique de Hong Kong. Un nombre record d'électeurs et de candidats se sont d'ailleurs inscrits pour y participer. Mais le jeune militant Joshua Wong voit dans sa disqualification un nouveau signe de l'ingérence de Pékin dans les affaires de Hong Kong.
Le fait que je sois le seul candidat à être rejeté prouve que Pékin manipule nos élections avec de la censure politique et de la sélection arbitraire.
Pour le professeur de sciences politiques à l'université Baptiste, Kenneth Chan, la décision d'interdire Joshua Wong est une mesure de rétorsion.
La disqualification de Joshua Wong est étroitement liée à son profil sur la scène internationale et à son engagement politique, tant à Hong Kong qu'à l'étranger. Pékin et le gouvernement cherchent ainsi à le punir en le privant de toute vie politique à l'avenir.
Le gouvernement, de son côté, a justifié cette décision en rappelant que l'idée d'autodétermination promue par le parti de Joshua Wong est contraire à la Basic Law, la mini-constitution de Hong Kong, dont le premier article spécifie que Hong Kong est partie intégrante de la Chine. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
La mobilisation à Hong Kong contre l'ingérence grandissante de la Chine et bien d'autres foyers de contestation dans le monde. Bolivie, une semaine après la réélection d'Evo Morales, la contestation a gagné la capitale. Démonstration de force hier des deux camps, partisans et adversaires du président. Une 30aine de personnes blessées. Et puis le Chili, les salariés de la plus grande mine de cuivre du pays se mettent en grève alors que le centre de Santiago a été secoué par de nouveaux affrontements cette nuit. La population réclame plus de justice sociale. L'actualité à l'étranger nous ramène également aux États-Unis, car Donald Trump se retrouve face à un nouveau témoignage embarrassant dans la procédure de destitution lancée par l'opposition. Le président américain est accusé d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur son rival Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. L'a-t-il fait à des fins personnelles? A-t-il abusé de son pouvoir? Le Congrès entend aujourd'hui un haut colonel de l'armée américaine témoin visiblement à charge contre le président. Valérie Crova.
Je ne pensais pas qu'il était approprié d'exiger qu'un gouvernement étranger enquête sur un citoyen américain. Dans sa déclaration préliminaire, dont le New York Times a publié des extraits, Alexander Vindman dit avoir été préoccupé en écoutant l'appel téléphonique au cours duquel le président Trump a demandé à Volodymyr Zelensky d'enquêter sur le fils de Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate, dans le but de le discréditer. Le colonel Vindman, qui a grandi en Ukraine, fait référence à son patriotisme et de souligner que si le président ukrainien avait répondu favorablement aux souhaits de Donald Trump, cela aurait nui à la sécurité nationale des États-Unis. Au cours de son audition, Alexander Vindman, que le passé de vétéran devrait mettre à l'abri des attaques, fournira des éléments qui vont dans le sens de ceux qui ont conduit les démocrates à ouvrir une enquête, et ce, deux jours avant que la Chambre des représentants ne se prononce sur la suite de la procédure de destitution.
La Chambre des représentants qui doit justement voter jeudi sur la suite à donner de cette procédure. Dit comme ça, ça va vous donner le vertige. 7 mois pour gravir les 14 montagnes les plus hautes de la planète, toutes dans l'Himalaya, plus de 8000 mètres d'altitude. Ah bah oui, ça commence à tourner. C'est un record, évidemment. La meilleure performance connue pour ce marathon était de plus de 7 ans. C'est dire le record. Bonjour Jean-Michel Asselin.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste, un excellent connaisseur de la montagne. Et on vous appelle pour comprendre un peu cet exploit. Qui d'abord est derrière cette performance ?
Alors derrière, on a un Népalais qui s'appelle Nirmal Pooja. Son pseudo, c'est Nims Dai. Dai, ça veut dire le frère. Mmh. Et donc, c'est un personnage étonnant parce que c'est quelqu'un qui a servi dans les forces spéciales britanniques. Vous savez ce qu'on appelle les Gourkas. Mmh. Ils ont été quand même 200 000 à venir combattre en France dans la guerre de 14. Et donc, c'est vraiment des solides gaillards. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on voit que les Népalais, désormais, ne font plus de la figuration en montagne, dans leur montagne de l'Himalaya. Ce sont aujourd'hui les héros, ce sont les aventuriers, ce sont eux qui signent les grands exploits.
Oui, parce que lui, au départ, il n'était pas très connu dans le petit monde, hein, c'est un petit milieu, l'himalayisme, comme on dit.
Oh, c'est un tout petit milieu, effectivement, Nims n'était pas très connu, mais quand justement il a annoncé son projet, tout le monde a crié, c'est une histoire de fou, et ça ressemble à une histoire de fou. Mais cela dit, il l'a fait, et c'est formidable. Très grande force de ce gars-là, très grande force du côté de sa logistique, et puis très belle œuvre collective, parce qu'il était accompagné avec une très belle équipe qui lui a permis de réaliser ce chef-d'œuvre.
Oui, alors justement, c'est ce qu'il faut qu'on explique un petit peu, parce que quand on fait la comparaison entre 7 mois pour gravir 14 montagnes de 8000 mètres d'altitude aujourd'hui, comparé à 7 ans, c'était le dernier record, comment un tel écart est possible ? C'est la logistique que vous évoquiez ?
Alors, tout simplement, c'est que ces records ne sont absolument pas comparables. Nims vient d'inventer, en fait, une nouvelle façon de faire de l'himalayisme. C'est de l'himalayisme hold-up, main basse sur les 14 000.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, ça veut dire qu'il était avec de l'oxygène. Il s'embarrasse pas de se dire, tiens, mais je vais accéder à ce camp de base avec un hélico ou pas.
Il prend l'hélico d'un camp de base à un autre. Il voyage en hélicoptère.
Pas toujours, hein, attention. Il est quand même allé au camp de base du K2 sans hélicoptère en 3 jours de marche au lieu de 8. Donc voilà. Mais cela dit, il a fait aussi, il a avancé en tête, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de voie tracée devant lui, par exemple sur le K2 où personne n'était allé, y compris même le très célèbre et fameux Mike Horn. Donc voilà. Mais en revanche, il était toujours avec de l'oxygène. La comparaison qu'on faisait tout à l'heure avec les gens qui ont fait 7 ans comme le coréen Kim Moon-cho ou le polonais Jerzy Kukuczka, c'est très différent. Eux étaient sans oxygène. Kukuczka a ouvert 10 voies nouvelles sur des sommets de 8000 mètres. On est dans une autre catégorie, on est dans une autre forme d'alpinisme.
La météo a joué aussi dans cet exploit. Est-ce que le réchauffement climatique, par exemple, a rendu certaines zones plus accessibles ?
Alors le réchauffement climatique a des avantages et des inconvénients. Certes, il rend les choses parfois plus faciles, mais à l'inverse, vous avez par exemple en automne, cette année, l'Everest n'a pu être gravi, de même que d'autres sommets comme le Makalu. Donc oui, certains avantages, certains désavantages. Ce qui importe surtout, c'est le routage. C'est-à-dire que les gens qui prédisent le temps, qui étudient la météo, vous donnent les bonnes informations au bon moment. Et ça, c'est essentiel. Et il faut saluer par parmi eux des Français comme le chamoniard Yannick Giesendaner qui depuis des années dirige certains des alpinistes vers les hauts sommets.
Vous avez commencé à l'évoquer, hein, c'est un sportif qui était soutenu, il faut toute une équipe derrière pour réussir un tel exploit. Oui. Qu'est-ce qu'on sait de ses soutiens, de soutien logistique, soutien financier, soutien politique aussi peut-être? Je sais que la Chine a dû lui délivrer un permis spécial pour gravir l'une des montagnes.
Exactement, la Chine n'autorisait pas le Shishapangma, qui est la seule montagne intégralement située au Tibet, en Chine maintenant. Et en fait, il a bénéficié de la clémence des autorités chinoises qui se sont dit « non, on va pas le planter là, quoi ». C'est trop beau pour être vrai, vous vous rendez compte, 180
jours. Il y a eu un engouement un petit peu autour de ce sportif au fur et à mesure des ascensions, qui a commencé en avril dernier en réalité.
Oui, puis c'est un personnage qui est très sympathique, avec une petite moustache, on sent toute sa force. Donc moi, ce que je pense surtout, c'est que ça met à l'honneur tout le renouveau de l'alpinisme népalais. Il y a des femmes qui grimpent l'Everest, des Népalaises, il y a des femmes népalaises qui deviennent guides, il y a des Népalais qui font des exploits partout, et ça, c'est génial.
Ouais.
Voilà, ils vont mettre un peu au rancard certaines belles réalisations occidentales, et ma foi, c'est la vie.
Et pour le style, l'alpinisme de vitesse, comme ça, qui utilise de l'oxygène, des hélicoptères, ça fait pas tiquer un amoureux des montagnes comme vous ?
Bah écoutez, ça fait moi je n'ai rien à dire là-dessus, mais en revanche, peut-être que la prochaine fois, Nims Dai va chercher à faire ce record sans utiliser d'oxygène. À mon avis, il en est tout à fait capable. Il mettra peut-être pas 7 mois, mais s'il fait ça en 2 ans, pourquoi pas.
Très bien, et ben je vous remercie beaucoup pour cette analyse, cette explication, Jean-Michel Asselin, journaliste spécialiste de la montagne, amoureux des montagnes et chroniqueur aussi chez nos confrères de France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Isère. Il fallait le rappeler, merci d'avoir été avec nous. Attention aux grandes marées, on va parler de la météo tout à l'heure, mais juste un petit mot pour vous dire qu'un pêcheur à pied de 63 ans a été retrouvé mort ce matin entre le Cap Fréhel et Saint-Calguildo dans les Côtes d'Armor. C'est une information de nos confrères de France Bleu Armorique. Depuis le début de l'année, 9 personnes sont mortes à cause de ces grandes marées dans les Côtes d'Armor. Un mot de sport, c'est une première et une sacrée première sur les terrains de rugby. Un Français sera au sifflet pour la finale du mondial entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud samedi prochain. Jérôme Garcès, premier arbitre français à diriger une finale de Coupe du Monde. Forcément, cela réjouit l'ancien arbitre international et ancien patron des arbitres français, Joël Dumay.
C'est une vraie reconnaissance et puis je crois que c'est mérité parce que Jérôme, depuis maintenant 4 années, a arbitré les plus gros matchs internationaux. Il a arbitré bien sûr la finale de Coupe d'Europe au mois d'avril dernier. Donc ça veut dire que c'est l'un des arbitres mondiaux les plus expérimentés. Et puis ses qualités évidemment techniques, mais aussi ses qualités de management sont reconnues au plus haut niveau. Jérôme est quelqu'un qui sait prendre des décisions importantes lorsqu'il le faut. C'est un peu la France tranquille parce que Jérôme dégage une empathie vis-à-vis des joueurs qui est nécessaire à ce niveau. En termes de manager, il sait exactement les fautes qu'il faut siffler. Il sait également oublier les fautes qui n'ont pas d'incidence directe sur le jeu. Donc, toutes les qualités, bien sûr, pour être un arbitre du plus haut niveau.
Joël Dumay avec Fabrice Abgral. Et le match, la finale de rugby Angleterre-Afrique du Sud, ce sera samedi prochain. On passe au temps.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Et c'est avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Les températures sont toujours très contrastées entre le nord et le sud. Les maximales cet après-midi seront comprises entre 8 et 14 degrés dans la moitié nord, avec 8 degrés à Mulhouse, 9 à Strasbourg, 10 à Rennes et Orléans. N'attendez pas plus de 11 dans la capitale ainsi qu'à Nancy. Prévoyez 12 à Tours et 14 à Bourges. Elles seront quasi printanières dans la moitié sud. Comptez 20 degrés à Limoges, Bordeaux et Biarritz, 21 à Perpignan et Bastia, 22 à Toulouse et Toulon. La maximale de 23 sera observée à Nîmes et à Ajaccio. Côté ciel cet après-midi, vous profiterez du soleil entre le nord et les Ardennes, de belles éclaircies entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon à la basse vallée du Rhône et partout ailleurs. Prévoyez un temps nuageux avec de faibles pluies, des pluies un peu plus marquées de la Bretagne à la Normandie.